Europe 1. Ondelatte raconte. Christophe Ondelatte.
À l'occasion de la conférence sur le handicap, Europe 1 a décidé aujourd'hui de parler du handicap en France. Et c'est l'occasion de vous faire entendre l'une de mes plus belles histoires. L'histoire de Philippe Croison, amputé des quatre membres, des deux bras et des deux jambes, et qui a une pêche, une énergie vitale stupéfiante qui l'ont fait traverser la Manche à la nage, relier les cinq continents à la nage, signer un Paris-Dakar en 2017 et tout un tas d'autres folies du même tonneau. C'est lui, bien sûr, qui assurera le débrief tout à l'heure. J'ai tiré mon histoire de son livre paru en 2006 chez Jean-Claude Gozevitch et qu'on retrouve aujourd'hui chez Pocket. J'ai décidé de vivre. Quentin Mouchel m'a aidé à l'écrire. Réalisation de Céline Lebras.
Europe 1, Christophe Ondelatte.
À la base, Philippe Croison, c'est pas un type dont on raconte l'histoire. C'est un type sans histoire. En 1994, il a 26 ans, il vit avec Muriel depuis ses 18 ans. Ils se sont mariés l'année d'avant, ils ont un petit garçon de 7 ans qui s'appelle Jérémy, et Muriel est enceinte du second, enceinte de 7 mois. Voilà. Ils habitent à Saint-Rémy-sur-Creuse, dans la Vienne, et comme Philippe vient de trouver enfin un boulot stable de métallo dans une fonderie, ils ont acheté une maison et donc ils déménagent. Je vous l'avais dit, hein. Jusque-là, il n'y a pas d'histoire. Sauf que la vie, cette chienne de vie, est capable en 2 secondes de vous transformer un type sans histoire en un héros moderne. Et voilà comment. On est donc en mars 1994, et je vous l'ai dit, les Croisons déménagent. Alain, le beau-frère, est là, Odile, la belle-sœur, ils sont venus donner un coup de main. Ça déconne, ça rigole, et en moins de 2, le camion est plein à craquer. Ah ! Il manque juste un truc. L'antenne de télé, pas question de la laisser au suivant.
Je vais la démonter, va, t'inquiète pas, il n'y en a pas pour longtemps.
Et donc Philippe attrape une échelle, il la déploie au maximum, il grimpe, et comme il est prudent, il s'attache à la cheminée avec une corde. Et les deux pieds sur le dernier barreau, il se met à déboulonner l'antenne de télé. D'en bas, son beau-frère le chambre.
« Alors mon vieux, tu te prends pour Tarzan sur ton échelle? T'es sûr que ta sangle va pas foutre le camp au moins? Je suis collé à la cheminée comme une abeille à son pot de miel. Y a aucun risque. »
Et ça y est, il a déboulonné cette fichue antenne. Et maintenant, faut redescendre. Et là, c'est une autre histoire. Le machin fait 2 mètres, ça pèse un âne mort. À un moment donné, il vacille, et pour se rattraper, il appuie ses tibias sur l'échelle. Et là, un éclair, une détonation, et Philippe se retrouve accroché dans le vide comme un pantin désarticulé. Il vient de se faire foudroyer, parce qu'à 1,30 m au-dessus de la maison, il y a une ligne à haute tension qui vient de former un arc électrique. Avec l'antenne. Tant qu'il s'appuyait sur ses chaussures en caoutchouc, ça allait, mais quand il a posé les tibias sur l'échelle, paf ! Il a pris, comme l'éclair d'un orage, 20 000 volts. Le courant a sauté, et c'est lui qui a joué le fusible. Il est mort ! Le cœur ne peut pas supporter un choc pareil, il est mort ! Mais la miracle, nouvelle détonation. Le courant s'est remis en marche automatiquement et il a pris une deuxième décharge. Et le miracle, c'est que l'électrochoc l'a ramené à la vie. Il a relancé le cœur. C'est dingue. Mais c'est pas fini. C'est loin d'être fini. Il sent le courant qui gronde dans son corps, dans ses os. Un filet de sang coule de ses lèvres et il hurle.
« Je veux pas mourir. Je veux pas mourir. »
Et là, le courant se coupe à nouveau quelques secondes et puis il revient. Et là, ça dure. Ça dure des minutes qui durent des siècles. J'ai l'impression de n'être plus rien, d'être réduit à ce bruit assourdissant qui a investi mon corps et le consume. Le malheur veut que je sois resté lucide. Mon esprit et mon corps sont désormais scindés, déconnectés l'un de l'autre. Je me vois brûler. Une boule de feu poursuit en moi sa lente progression et me ronge morceau par morceau. La torture est absolue. Il est en train de brûler. Et d'ailleurs, son jean s'enflamme. Un voisin enfile de grosses godasses et prend des gants en caoutchouc. Il attrape un extincteur. Il grimpe sur l'échelle. Il éteint le feu, mais pas le courant. Et ça dure. Et ça dure. Et ça dure 20 minutes. Vous entendez ? 20 minutes à rôtir, à se consumer de l'intérieur, jusqu'à ce qu'on parvienne à couper le courant. Et Philippe qui souffre le martyr. Les gens qui sont là, son père, son frère qui viennent d'arriver, ne donnent pas cher de sa peau. Vous vous rendez compte ? Il a pris du 20 000 volts pendant 20 minutes. Les secours arrivent sur place. Et une ambulance le conduit au terrain de foot où un hélicoptère a pu se poser. Et on l'emmène au centre hospitalier de Tours et lui trouve encore la force de faire une blague à son frère qui l'accompagne.
Tu remercieras les installateurs de ma part ?
Et juste après, il sent de l'agitation autour de lui et il entend
« Vite ! Massage cardiaque ! Il fait un arrêt !»
Pendant le transport en hélico, il en fait deux. Deux arrêts cardiaques. Et deux fois, grâce au défibrillateur, son cœur repart. Il veut vivre, le diable. Il veut vivre. Mais sur le papier, il y a zéro chance. Il est carbonisé de l'intérieur. Et le voilà au service des grands brûlés à Tours, dans une chambre stérile. 4 jours après l'accident, un médecin vient voir la famille.
Bien. Les brûlures occasionnées par l'accident sont plus graves que des brûlures au 3e degré. On parle là de carbonisation. Les lésions sont importantes et en tout état de cause, il va falloir l'amputer de son avant-bras droit.
Philippe est dans le coltard à cause de la morphine, mais il y a un moment où il comprend. Il comprend ce que ça signifie. On va lui couper le bras dont il se sert le plus, celui avec lequel il tient son petit Jérémy par la main, celui avec lequel il mange. Ça le mine, mais s'il savait ce qu'il attend. On l'ampute donc de l'avant-bras droit. Et 3 jours plus tard, de l'avant-bras gauche. Et de la jambe droite, juste au-dessus du genou. Lui, il est dans les vapes, il ne saisit pas l'énormité de ce qui est en train de se passer. Il n'a plus de bras, et il ne lui reste qu'une jambe. Et quand vous demandez au médecin, ils ne sont toujours pas capables de jurer qu'il va survivre. Son corps est carbonisé de l'intérieur. Et la carbonisation, ça produit des toxines, un poison que les reins ne savent pas filtrer. Alors on le met sous dialyse, et il survit. Mais les premières semaines, la morphine et les calmants, il est dans le potage. Il ne réalise pas. C'est quand on diminue les doses, au bout d'un mois, que le ciel lui tombe sur la tête. On se sent glisser vers la folie. Le désir intense que le cerveau s'arrête de fonctionner, mais cela n'arrive pas. Alors émerge l'envie profonde, vitale, de mourir, seul moyen d'arrêter la souffrance. Philippe est au fond du trou. Il ne se voit plus d'avenir. Sa famille vient le voir tous les jours, sa femme, son fils, il lui parle à travers un interphone, sa chambre est stérile, il est derrière une vitre. Pour eux aussi c'est dur, Ils font ce qu'ils peuvent pour ne pas s'effondrer, pour lui faire passer un peu de force. À ce stade, il lui reste une jambe. La gauche. Mais pas pour longtemps. Un matin, les médecins débarquent.
Votre jambe gauche. Vous voyez là? Le petit point noir au niveau du tibia. Le courant est passé par là. Elle a été carbonisée, elle aussi. Il va falloir l'amputer.
Philippe se dit, au point où j'en suis. Et le voilà amputé des 4 membres. Un jour, son copain Jackie vient le voir. Et avec lui, Philippe craque.
Je suis foutu. T'entends ? Je suis foutu. Je veux mourir, Jackie.
Philippe, tu vois, moi, j'ai perdu mon père très tôt. Je sais ce que c'est que de ne pas avoir de papa. Alors tu penses à Jérémy. Tu penses aux futurs bébés. Ils ont besoin d'un père. Eh bien, c'est exactement ce qu'il fallait lui dire. Jackie a trouvé les bons mots, ouais. Les gamins. Vivre pour les gamins. Ça, ça lui parle. Sacré Jackie. À partir de ce moment-là, Philippe change radicalement de perspective. C'est brutal, c'est fulgurant. Un changement de pied, il me pardonnera le jeu de mots, tellement radical qu'il en deviendrait inquiétant. Est-ce qu'il serait pas en train de partir en sucette, le Philippe? De devenir dingo? Remarquez, ça se comprendrait. Mentalement, il est déjà après. Par exemple, il veut savoir ce qu'il se fait en matière de prothèse. Et c'est là, à ce moment-là, sur son lit d'hôpital, qu'il évoque la première fois l'idée de traverser la Manche à la nage. Ça lui est inspiré par un reportage qu'il voit à la télé.
Hey, pourquoi pas moi ?
Ça semble délirant, hein ? Mais ça lui donne de la perspective. Ça lui fait du bien. Il parle aussi déjà de reconduire une voiture. Tout ça, je ne vous raconte pas de blagues, hein. Quelques semaines après son accident et ses 4 amputations. À peu près à cette époque, derrière la vitre, son fils Jérémy, qui a 7 ans, lui pose une drôle de question.
Papa, je pourrais voir tes blessures ?
Philippe hésite. Et puis il accepte. À mon grand soulagement, Jérémy réagit très bien. Il ne semble pas du tout choqué et me promet qu'il continuera à bien travailler à l'école et que cela ne l'empêchera pas de m'aider à manger. Je reçois ce jour-là une immense bouffée de chaleur. Deux mois et demi après l'accident, Philippe est toujours derrière sa vitre. Et là arrive un événement considérable. Sa femme, Muriel, accouche de leur petit deuxième, Grégory. Le père de Philippe débarque tout de suite à l'hôpital avec une photo. Et Philippe fond en larmes, des larmes de joie. Et une infirmière fait péter le champagne et elle lui humecte un peu les lèvres. Légère entorse à la stérilité de sa chambre. Et puis un jour, ils quittent cette chambre et ils peuvent enfin s'embrasser. Sa femme, ses enfants, ses amis, ses parents, c'est un moment très fort qui dure pas longtemps, hein. Il doit retourner en chambre stérile, mais ça lui fait du bien. Et 3 mois après son accident, le 6 juin, il quitte l'hôpital pour le centre de rééducation de Valenton, dans le Val-de-Marne, près de Paris. Et là, vous allez voir ce que c'est qu'un type qui n'en veut. Et là, il débarque dans un centre de rééducation à Valenton, dans le Val-de-Marne, près de Paris, et ça n'est plus la même limonade. Ça lui fait l'effet d'un ghetto, pour handicapés. Et ça plombe un peu sa motivation. Et pourtant, il sait que c'est incontournable. Il vient de passer 3 mois à l'horizontale, il doit se réhabituer à la position verticale, et il doit rééduquer ses muscles s'il veut porter des prothèses. Mais c'est dur. Et les premiers jours, il craque. Et il craque devant Muriel, sa femme.
J'y arrive pas, Muriel. Je me sens abandonné. Putain ! J'y arrive pas, je te dis !
Philippe a le moral dans les chaussettes. Lol. Et les médecins, évidemment, le remarquent. Et le médecin-chef leur propose à tous les deux, Philippe et Muriel, une solution.
Écoutez, Philippe, si vous n'y mettez pas plus de cœur, à ce train-là, votre fils va marcher avant vous. Alors j'ai pensé que peut-être, Muriel, vous pourriez venir séjourner au centre, le temps de votre congé maternité. Vous partageriez la chambre de Philippe.
Philippe est aux anges et il se fait une promesse. Il marchera avant son fils. On est en juin Eh bien, il marchera au mois d'août. Foi de Croizon. Il marchera pour l'anniversaire de mariage de ses grands-parents. Et comme ça, il retrouve de la volonté, de l'énergie. Et tant qu'à faire, on lui baisse le traitement antidépresseur qui est censé l'empêcher de craquer. Il a besoin de craquer, de temps en temps. C'est comme ça qu'il avance. Au début, il s'agit surtout de le remettre en position verticale. On le sangle sur une planche, on incline la planche petit à petit. Une heure le matin, une heure l'après-midi. Ça va. Mais il y a des moments de cafard, ça c'est inévitable. Et comme Muriel est là, au pied du lit, eh ben c'est elle qui encaisse.
J'en peux plus, putain, Muriel! Je peux pas vivre dans cette condition. Je veux mourir.
Et cette fois, Muriel lui rentre dedans. Elle ouvre la fenêtre.
Eh ben vas-y, saute, puisque tu penses qu'à toi, hein? Tu penses à ma souffrance, à moi? Qu'est-ce qu'on va devenir si t'es plus là, moi et les petits?
Ils se regardent en silence, ils fondent en larmes, et Muriel le prend dans ses bras. Muriel m'a tenu tête. Elle ne m'a pas plaint, elle a eu diablement raison. Ça n'est pas parce qu'on est handicapé que nos défauts s'effacent d'un coup de baguette magique. Il faut donc nous traiter de la même façon qu'avant. Si nous sommes infects, il faut nous le dire. Ça ne peut que nous aider, nous relancer dans notre lutte. Et donc, petit à petit, Philippe s'approprie ce nouveau corps. Il apprend notamment à se servir de ses moignons, à découper du bois, à faire de la peinture. Il se donne à fond. Puis un matin de juillet 1994, 5 mois après l'accident, se produit un événement dont peut-être seuls les garçons peuvent pleinement apprécier la valeur. Il a la gaule, il a la trique. Parce que ça, c'était un souci, c'était un gros souci. Il n'était pas certain de rebander un jour. Et ça marche, et il va pouvoir refaire l'amour. Et c'est bon pour le moral. Vous vous souvenez que Philippe s'était donné pour objectif de remarcher en août? Eh bien, on y est, en août. Ça fait 3 mois qu'il fait de la rééducation et il va tenter de faire son premier pas. Il enfile des prothèses qu'on appelle des monoblocs. Ce ne sont pas des prothèses définitives, hein, c'est lourd, ça n'est absolument pas fait pour marcher. Muriel filme. Et tout le service est là, hein. Il y a les kinés, les infirmières, tous les résidents. On veut le voir. Et il se lance, un kiné de chaque côté pour l'épauler au cas où.
1, 2, 3, allez, on y va.
Et ça y est, il est debout, mais il perd l'équilibre et il se rassoit. Et puis il recommence 1 fois, 2 fois, 3 fois. Il transpire comme un boxeur, et comme un boxeur, on lui éponge le front, et puis à un moment, il fait son premier pas. Et les gens autour applaudissent. Alors les jours qui suivent, il s'entraîne comme un forcené. Et au bout d'une semaine, il marche comme un canard, mais il marche tout seul. Et à l'anniversaire de mariage des grands-parents, personne n'est au courant. Tout le monde s'attend à le voir débarquer en fauteuil électrique. Quand il arrive dans la salle des fêtes, juché sur ses prothèses monoblocs, les gens sont scotchés. Et passé l'effet de surprise, ils se jettent dans ses bras. Eh bien maintenant, étape suivante. Parce que il ne peut pas vivre durablement avec ses machins tout raides, au bout des moignons. Alors maintenant, voyons ce qu'il peut faire au niveau des bras. Pour les bras, il existe des prothèses qu'on appelle myoélectriques. C'est une technologie de pointe. Il s'agit d'utiliser les muscles qui vont jusqu'au bout des moignons pour déclencher une impulsion électrique qui va faire bouger la prothèse. Mais ça, c'est sur le papier. Parce qu'en pratique, Philippe a un mal fou à doser la puissance. C'est très compliqué à gérer. Et donc, au final, il s'en sert, hein, mais pas tout le temps. Il les enlève souvent. Mais c'est ça qui lui permet de passer à la prochaine étape. conduire. En septembre, 6 mois après le drame, Philippe trouve une voiture adaptée avec un joystick et la reconnaissance vocale. Il prend des cours et c'est bon. Ça, c'est fait. Mais bon, Philippe n'est pas Crésus, hein. Tout ça, la voiture, le fauteuil, les prothèses, les aménagements qu'il va falloir faire chez lui, ça coûte très cher. Et c'est pas pris en charge. Et donc, en septembre, ses parents créent l'association d'aide et de soutien à Philippe pour recueillir des dons. Mois après l'accident, fin 1995, Philippe peut enfin retourner vivre chez lui. On va dire les choses franchement. Les débuts sont difficiles. Il gamberge sur son rôle de père, sur son rôle de chef de famille. Et pour tout dire, il s'ennuie, il s'emmerde en attendant que Muriel rentre du travail. Et quand elle rentre, eh bien il est infect avec elle. Infect. Les années passent, il se reconstruit psychiquement, mais 7 ans après le drame, à force d'être infect, Muriel le quitte. Et là, tout son monde s'écroule. Ce soir-là, il s'enfile une bouteille de martini, il va sur un pont, il est sur le point de sauter. C'est Jérémy qui appelle. Il comprend tout de suite que quelque chose ne va pas. Il lui envoie les secours et voilà, il va vivre. Philippe met 3 ans à se remettre du départ de Muriel. 3 ans. Et puis un jour, il se lance sur les réseaux de l'amour. Il se lance sur Mythique. Ah ! Il en passe du temps sur Mythique. C'est addictif ce genre de truc. Au début, sa stratégie est d'éluder la question du handicap. Quand il branche sa webcam, il s'arrange pour qu'on ne voit que sa bonne bouille. Et puis il annonce la couleur que quand ça accroche.
Ouais, en fait, je t'ai pas dit mais je suis handicapé. J'ai plus de bras et plus de jambes.
Très mauvaise stratégie. Alors finalement, il annonce la couleur d'entrée. Il montre tout à la webcam, tel qu'il est. Et là, ça marche. Il fait une première rencontre. Oh, c'est pas l'amour avec un grand A. Ça ne dure que quelques mois. Mais il sait qu'il peut aimer à nouveau et qu'il peut être aimé. Et quelques mois plus tard, il rencontre Susanna. Et ça, ça lui donne des ailes. À partir de ce moment-là, Philippe se lance des défis de plus en plus ambitieux. Il commence par un saut en parachute à 4000 mètres. Et en 2008, il annonce qu'il veut réaliser son vieux fantasme. Cette idée qui lui trotte dans la tête depuis son séjour au service des Grands Brûlés. Il y a 14 ans, il va traverser la Manche à la nage. Sauf qu'à ce moment-là, il n'a jamais fait de sport. Il est gras comme un lardon. Mais à Croison, rien n'est impossible. Pendant 2 ans, il s'entraîne comme un fou. 35 heures par semaine, 280 km de nage en piscine, en lac, en mer. Et le 18 septembre 2010, 16 ans après le drame, le voilà qui part de Folkestone, en Angleterre, qui nage 13 heures et 26 minutes et qui arrive au Cap Griné. Et là-haut, sur la falaise, il entend crier.
Papa ! Papa, t'es le plus fort du monde !
Et en retour, il crie.
Je vous aime ! Je vous aime !
Pardon, Philippe Croison, de vous avoir fait revivre tout ça. Je me rends compte que, sans doute, vous avez tourné la page, que ce livre, il est loin, loin, loin.
Oui. C'est dur, hein.
C'est dur ?
Ouais, c'est dur. C'est dur, mais... Ce qui est dur, c'est la fin, là. Mes deux garçons qui me trouvent sur le Cap Griné, quoi. C'est juste extraordinaire. Ben, imaginez, il y a 150 personnes qui me cherchent. On est 12 nageurs à quitter les côtes anglaises. Cette journée-là, on est 4 à réussir. Et il y a un nageur valide qui arrive à 21h26 à droite du Cap Griné. Moi, j'arrive à gauche du Cap Griné. Et toute ma famille, mes amis, tout le monde part de l'autre côté, à l'opposé.
Sauf vos fils.
Sauf mes deux garçons, quoi. Leur grand-père l'engueule, les engueule, dit non, vous partez pas du bon côté, revenez, c'est trop dangereux. Et eux, ils continuent leur route et c'est eux qui me trouvent. En pleine nuit, en pleine tempête, c'est mes deux garçons qui me trouvent. Donc, c'est le destin et c'est.
C'est un signe parce que c'est pour eux que vous êtes là.
Ah, bah, complètement, ouais. Et c'est eux qui me trouvent.
Et c'est eux qui vous trouvent.
Et c'est eux qui me trouvent. On l'aurait écrit, ça serait jamais réalisé, quoi. Ouais, c'est bizarre hein, d'écouter Christophe Ondelat qui raconte votre histoire et.
Et de se faire émouvoir par sa propre histoire.
Non, mais c'est une torture.
Pardon.
C'est une torture agréable parce que d'être avec vous aujourd'hui et puis, je sais pas, de partager avec les auditeurs une expérience de vie et de dire que c'est jouable. C'est mon leitmotiv aujourd'hui. C'est de dire que tout est possible.
Je vais vous dire ce que j'ai aimé dans cette histoire tout le temps que je l'ai écrite, c'est-à-dire en gros pendant 7 à 8 heures. Hein. J'ai travaillé hier soir là-dessus et puis ce matin. On y retrouve votre pêche. On y retrouve votre optimisme qui est ce qui vous caractérise aujourd'hui. Mais j'ai aimé que vous n'éludiez pas les moments de déprime, les angoisses, l'envie de mourir, vos tentatives de suicide.
Ouais, complètement. Enfin, c'est hyper important. Moi, quand j'ai écrit ce livre, le premier livre, j'ai décidé de vivre. J'ai reçu une reconnaissance vocale pour Noël par mes parents. Et je dis, mais je vais faire quoi avec ça pour l'ordinateur? Et je vais écrire mon histoire pour mes garçons. J'imaginais même pas écrire un livre. Je voulais juste écrire l'histoire pour que mes deux garçons sachent ce qui s'était passé. Ouais. Et c'est après que c'est devenu un livre malgré moi. Parce qu'on m'a pris le manuscrit, quelqu'un l'a édité, c'est devenu un livre. Et j'en étais content. Et après, j'étais fier que des gens puissent prendre ce livre et l'utiliser pour des gens qui rentrent dans l'univers du handicap. Pour dire, ok, il y a des... Oh la vache.
Pour les paras, ouais, voilà. Pour les
exactement,
tétras.
Il y a des passages. Oh la vache, il y a des passages à passer.
Ouais.
Les passages sont durs, ils sont difficiles, que ce soit pour nous ou pour les accompagnants, hein, ouais. Pour la famille, parce que quand on parle d'un accident, c'est pas que la personne qui a eu l'accident, c'est un tsunami pour les parents, pour la famille, pour les amis. Plus personne sait comment interpréter la personne.
Mais on peut pas raconter l'histoire qu'en montrant ce qui vous a guidé, ce qui vous a projeté. Non. Il faut aussi dire qu'il y a eu des passages à vide. D'ailleurs, il s'est écoulé tellement de temps, 16 ans entre l'idée de traverser la Manche et le moment où vous le faites. Et d'ailleurs, le livre ne raconte pas tout ce qui se passe pendant ces 16 ans.
Non, je le raconte un peu plus dans le troisième livre qui s'appelle Plus fort la vie. Mmh. Là, je raconte un petit peu plus ce parcours-là où je vais végéter dans mon canapé, quoi. C'est ce que j'explique dans ce livre-là. Je vais végéter dans son canapé, je vais attendre. Je sais pas quelle va être ma vie. Je tâtonne. Je vais mettre fin à mes jours à deux reprises. Enfin, je vais tenter, du moins. C'est ce que j'explique dans ce livre-là. C'est dans ma vie, il y a deux fois où j'ai reconnu le renoncement et l'échec. C'est quand j'ai voulu mettre fin à mes jours. Et tant mieux. Tant mieux, parce que ça aussi, c'était un objectif. Bizarrement, on se construit tout doucement cet objectif-là pendant 7 ans. Et quand votre épouse vous dit « je vais partir », eh ben on se met en action. On reste calme, on reste zen. On sait que c'est à nous de partir, c'est pas à eux.
Ouais.
Bizarrement, et après, grâce au psy, j'ai réussi à me reconstruire et comprendre que c'était vraiment une bêtise, mais sur le coup, on peut pas s'arrêter. Il n'y a pas un geste d'égoïste. On aime ses enfants, on aime sa famille. On sait qu'on est en train de le faire, mais on peut pas s'arrêter.
Vous pensez que votre histoire peut servir à d'autres qui souffrent? Vous avez parlé à l'instant des gens qui entrent dans le handicap, mais au fond... Ce sont toutes les tuiles de la vie qui peuvent être comparées à ce que vous avez vécu. Est-ce que vous avez la preuve que votre histoire peut servir à quelqu'un d'autre?
Oh, il y en a plein. Il y en a plein. J'ai mon petit mini-moi, par exemple, Théo Curin, qui a été amputé des quatre membres à l'âge de 6 ans. Un petit garçon extraordinaire. Il avait peur du handicap, ses parents aussi. Et après le livre, j'ai décidé de vivre. Ils m'ont appelé et aujourd'hui, c'est un athlète de haut niveau. Tout le monde connaît un petit peu Théo Curin et c'est devenu un athlète, un sportif de haut niveau dans la natation. Il y a plein d'exemples comme ça, mais que ce soit valide ou handicapé. Enfin, on a tous besoin à un moment donné de se dire, mais si lui il a réussi, moi aussi je peux réussir mon parcours de vie. Je dis pas de traverser la Manche. Hein. Aujourd'hui, j'aime à dire que je suis fier de ce que j'ai réalisé. Ouais, j'en suis même fier à 1000% parce que j'aime ma vie d'aujourd'hui, parce que j'en ai fait quelque chose. Il a fallu du temps.
Philippe, il y a un déclencheur dans votre histoire qui vient assez tôt. C'est un copain d'avant l'accident qui s'appelle Jackie. Et qui vous dit très exactement ce que vous aviez besoin d'entendre. Vous voulez mourir, vous le lui dites. Et lui, il vous dit, t'as pensé à tes fils. Ils ont besoin de toi. Ouais. C'est ce que vous aviez besoin d'entendre.
Exactement, c'était la phrase, la phrase qui va déclencher le retour à la vie. Parce que juste avant, pendant plusieurs jours, mon père tente ta chance, ma mère, mon frère, mon épouse, tout le monde vient tenter sa chance pour essayer d'avoir la petite phrase, la petite étincelle qui va vous ramener à la vie. Et c'est lui qui me dit, bah écoute, moi j'ai perdu mon papa très jeune, toi t'es encore vivant mon gars, il y a Jérémy qui t'attend, il y a Grégory, Grégory vient de naître, il a besoin de toi mon gars, ils vont avoir besoin d'un papa. Et moi, c'est encore une nouvelle fois un coup de jeu, mais virtuel cette fois-ci, qui me ramène à la vie, je dis, ouais, même si je suis un papa comme ça, je peux encore dire, va ranger ta chambre. Et donc je décide de vivre.
C'est parce que c'est votre bon copain, Jackie, qu'il trouve les mots?
Je sais pas si c'est parce que c'est le super bon copain, ou c'est parce que Je pense qu'il a trouvé la phrase qu'il fallait. Et très souvent, on m'appelle, on me dit, mais qu'est-ce que je peux dire à mon enfant? Qu'est-ce que je peux dire à mon oncle? Qu'est-ce que je peux dire à mon mari? Mais j'ai pas la phrase magique. J'en sais rien. Je dis, mais il faut juste être auprès de lui. Et à un moment donné, peut-être que c'est à lui d'avoir un déclic. C'est pas aux gens qui sont autour, c'est à lui d'avoir le déclic. Et donc, après, il y a les fameuses 5 phases à franchir, hein, les phases de deuil, les phases de colère, les phases de déni. Et après, arriver au retour à la vie, l'acceptation.
Quelle sorte de bonhomme est-ce que vous étiez avant? Avant l'accident, est-ce que vous étiez du genre à vous noyer dans un petit souci, dans une petite contrariété, ou est-ce que déjà vous étiez un type qui met les problèmes de côté pour tracer?
On va dire, je mettais plus pas les problèmes de côté, je les prenais à bras le corps et je disais bon voilà, il faut trouver une solution.
Vous
étiez un bout en train. Ouais, j'étais un bout en train. Il fallait, bon, j'organisais tous les mariages de la famille. Ben, j'aimais vraiment ça, j'aimais organiser les fêtes, ainsi de suite.
Un leader
pour moi-même.
Pour la famille,
ouais, pour la bande. Pour l'amusement et avant de rentrer aux fonderies, avant d'être militaire, enfin j'étais en échec scolaire, j'étais dyslexique sévère, donc j'arrivais pas à avancer à l'école. Et quand je suis rentré ouvrier métallurgiste, j'ai repris des études. Je me suis dit mais je peux pas rester comme ça. J'ai repris mes études, j'ai eu mon diplôme et quelques semaines après j'ai eu mon accident. Donc fallait tout recommencer encore une nouvelle fois.
Alors évidemment il y a cette épisode avec Muriel qui est à la fois celle qui va vous tenir à bout de bras pendant toutes ces années, que vous allez évidemment persécuter parce que vous êtes impossible pendant ces années-là et qui à un moment dit basta. Alors je veux pas rentrer dans l'intimité de votre couple avec Muriel, mais peut-être qu'il fallait aussi que quelqu'un s'occupe de Muriel pour la soutenir, c'est-à-dire que elle a beaucoup souffert aussi.
Ben le problème c'est qu'on a été isolés pendant des années. C'est-à-dire qu'une fois que vous sortez du centre de rééducation, personne vient vous donner un coup de main. Je parle psychologiquement, il n'y a pas de psy, il n'y a rien. Aujourd'hui, ça a changé. Je parle de 1994. Et quand je sors du centre de rééducation en 1994, j'ai jamais vu un psy. Jamais. Et Muriel n'a jamais vu de psy, ma famille n'a jamais vu de psy. Et on se retrouve là tous les deux dans une maison avec nos deux enfants.
Que vous connaissiez pas en plus cette baraque, puisque vous n'avez jamais déménagé, vous.
Exactement. Et donc, je fais vivre l'enfer à ceux qui m'aiment le plus, parce que je sais qu'ils vont tenir le coup. Mais je le fais pas exprès. C'est pas quelque chose auquel on réfléchit, c'est simplement qu'on est dans une telle souffrance qu'on imagine que l'autre va comprendre, alors que l'autre il peut pas comprendre parce que lui aussi est dans une souffrance.
Ouais.
Et l'autre aussi il espère que moi je vais comprendre sa souffrance. Et on vit comme ça dans une souffrance permanente jusqu'au jour où elle part et là, quand moi j'explose, 7 ans plus tard, où ouais. Je vais mettre fin à mes jours à 2 reprises, Muriel explose, mon frère, mon père, ma mère, tout le monde explose et tout le monde a besoin d'un coup de main. Parce que pendant 7 ans, jamais personne n'a parlé.
Mais avant l'accident, vous étiez déjà un type un peu explosif comme ça, un peu...
Ouais. Ouais, on va dire que j'aime bien, quand j'ai un objectif, j'aime bien que ça aille au bout, quoi. Ouais. Il faut que l'équipe tourne et qu'on
Il faut que ça suive, quoi.
Il faut que ça suive.
Ouais.
Des fois, ils sont un peu fatigués. Donc, je les remotive un petit peu et des fois, c'est moi qui suis fatigué, c'est mon équipe qui me remonte le moral.
Alors,
vraiment un partage.
J'ai adoré évidemment l'épisode de la gaule matinale parce que c'est bien de parler de ça, parce que c'est la première question, paraît-il, que se posent tous les handicapés, notamment les paraplégiques, les tétraplégiques, qui n'ont plus de capacité musculaire, qui donc n'ont plus d'érection et qui se disent est-ce que je vais pouvoir.
Qui n'ont plus l'instrument de partage dans l'absolu.
Ouais.
Parce qu'avoir une relation amoureuse, c'est le moment de partage absolu. Enfin, c'est le moment de bonheur. Voilà, c'est quelque chose d'hyper important dans un couple ou même dans la vie de tous les jours. Donc, un matin, ouais, effectivement, je me réveille et je vois qu'elle est là et je dis à Muriel, je dis, il y a quelqu'un qui veut te dire bonjour. Ça, je m'en souviendrai toujours de cette phrase parce que c'est juste extraordinaire. C'est une joie intense de dire, waouh,
ouais.
Je suis pas handicapé jusqu'au bout, quoi. On m'en a coupé 4/5 seulement.
Ça vous surprend aujourd'hui encore qu'une femme veuille faire l'amour avec quelqu'un d'aussi abîmé que vous?
Après, c'est une question de personnalité, je pense. C'est pas parce qu'il manque de bras et de jambes que on peut pas séduire. C'est pas parce qu'on est dans un fauteuil roulant qu'on peut pas séduire. C'est pas parce qu'il nous arrive une tuile monstrueuse qu'on peut pas séduire. C'est pas vrai, ça. Ça, c'est pas vrai. C'est la personnalité. C'est ce que tu es au fond de toi, ce que tu as envie de transpirer auprès de la personne avec qui tu vis. De avoir ce moment de partage. Et ça, c'est juste...
Faut 10 ans pour comprendre ça, à peu près. Plus que ça.
Après, j'espère qu'il faut moins pour certaines personnes, mais moi, il m'a fallu 10 ans, ouais. 10 ans à végéter et à me poser énormément de questions dans ma vie, ouais. À ne rien faire pendant 10 ans.
Ouais.
À être dans mon canapé, à regarder la fenêtre, la télévision.
Ça a vraiment été ça. Pendant 10 ans, vous êtes à l'état d'arrêt.
Ah, je suis à l'état d'arrêt. Je passe du lit au canapé, du canapé au lit. J'ai peur du monde extérieur, j'ai peur de mon nouveau schéma corporel. J'ai même honte de mon nouveau schéma corporel. Je sais pas comment affronter les gens. Et après, il y a mon père qui crée une association. Et moi, vu que je travaillais pour, à l'époque, au fonderie du Poitou, qui travaillait pour Renault, j'avais une Renault 25. Et d'un coup, ma Renault 25 ne correspondait plus à la personne handicapée. J'avais honte de ma voiture.
Donc on sort pas.
Et on sort plus. On a peur. Et donc, on se renferme sur soi-même, et puis on devient aigri, on devient méchant. Et puis jusqu'au jour où, voilà, où elle s'en va et que je demande un coup de main au psy, ça va durer pratiquement 3 ans à me reconstruire. Et au bout de 3 ans, je me dis, mais je suis pas fait pour vivre tout seul, moi. Mmh. Et j'essaye.
Alors la méthode Croizon, on l'aperçoit dès l'épisode de l'anniversaire de mariage des grands-parents, parce que on voit bien que ce qui marche chez vous, c'est je me fixe un objectif, je me fixe une date.
Complètement.
Et on y va.
Mais c'est surtout, c'est pour continuer à vivre. C'est ça le plus important, c'est de se fixer un objectif pour continuer à vivre. S'il n'y a pas d'objectif, il n'y a rien. Il n'y a pas de l'objectif de remarcher, c'est pour continuer à vivre. L'objectif d'être devant ma grand-mère, parce que ma grand-mère m'a aussi élevé, c'était pour moi, ma grand-mère, c'était mon pilier, c'était mon roc dans ma famille. C'était vraiment quelque chose de fort. Et waouh, pardon.
Oh là là, il y a l'émotion qui monte.
Ouais, parce que je l'aimais très fort, ma grand-mère. Et donc, je vais être debout pour elle, quoi. Mon objectif, c'est qu'il faut que je sois debout pour elle. Et les 50 ans de mariage font que je serai debout pour elle. Donc, il peut se passer n'importe quoi, un tremblement de terre, mais je serai debout pour elle. Et quand c'est les 50 ans de mariage, j'arrive en ambulance. Personne n'est au courant que j'arrive. On me met ses prothèses monstrueuses. Je me mets devant la porte, les deux portes s'ouvrent. Et je rentre en marchant en canard. Mon père me tient à côté, mon frère de l'autre, pour pas que je tombe. Et je vois ma grand-mère en larmes et je fonce sur elle. Et j'ai réussi mon premier pari dans ma vie, quoi. Et je me dis, mais ça veut dire que l'impossible, c'est juste nous. C'est personne d'autre, c'est juste nous l'impossible. On peut réaliser tout dans notre vie. Il suffit juste d'y croire et de demander aux gens un coup de main. Ça, c'est le plus important aussi. Demander un coup de main aux gens, c'est pas un déshonneur. Au contraire, c'est un moment de partage, encore une fois. Ça, c'est le plus important aussi.
Et donc, la méthode, c'est toujours celle que vous appliquez aujourd'hui.
Toujours pareil.
Ça marche pour le Paris-Dakar, ça marche pour la plongée sous-marine, ça marche. Vous allez faire un one-man show bientôt, je crois.
Je suis en écriture avec Jérémy Ferrari. À force de faire des conférences, je fais énormément de conférences, maintenant, en entreprise, dans les municipalités. Et j'ai fait une grosse conférence à Bercy, et il y avait des producteurs, ils m'ont dit, mais il faut que tu montes sur scène, toi, c'est pas possible. Et avec Jérémy, on avait fait beaucoup de bêtises déjà avant, on avait tourné pour le Honda Show, pour TF1, pas mal de choses. Et Jérémy, j'aimerais bien faire le one man, et tout de suite, il m'a dit, mais il a même pas réfléchi une seconde. Hein. Il m'a dit, allez, on y va. Donc ça y est, on est dans l'écriture, et ça sera pour septembre-octobre 2019, j'espère. C'est mon nouveau défi.
Et donc, d'ici là, c'est 100% pour ça.
C'est travail. Vous voyez, j'avais une chronique sur France 5 comme magazine de la santé, chronique sur le handicap, ça fait 6 ans que j'avais cette chronique. J'ai arrêté ma chronique pour vraiment me consacrer à mon nouveau défi. C'est l'objectif.
Ouais. Et après, il y en aura un autre, et ainsi de suite, quoi.
Je fais ce que j'aime, ce que j'ai envie de faire. C'est pas un défi pour un défi, c'est juste parce que j'ai envie. Il n'y a pas de limite aujourd'hui.
La rencontre avec Susanna sur Mythique est un épisode très intéressant parce qu'elle est toujours là.
Ah, toujours, ça fait 11 ans qu'on est ensemble. Ouais. 11 ans qu'elle dérouille aussi à mes côtés parce que les aventures, on en parle comme ça, mais traverser la Manche, c'est 2 ans d'entraînement, c'est 4000 km de natation en 2 ans, c'est manger, dormir, nager pendant 2 ans. Et ça, ça a été compliqué.
Et donc, elle doit être là quoi, au garde à vous?
Malheureusement, oui. D'ailleurs, je suis en train de lire ce qu'elle est en train d'écrire, parce qu'elle est en train d'écrire son livre en ce moment, qui va sortir avant les fêtes. Je pense que ma carrière va s'arrêter une fois que son livre va être sorti, parce qu'elle raconte la véritable histoire de Philippe Croizon.
C'est-à-dire, Philippe Croizon n'est pas un type toujours sympathique, adorable, affectueux, comme je pensais
qu'on l'était. On va dire que quand il a une idée en tête, il faut atteindre l'objectif, et ceux qui sont autour, il faut qu'ils avancent, malheureusement. Enfin, malheureusement, j'en sais rien, mais c'est vrai que c'était très très dur ces 2 années. C'était vraiment très très compliqué. Et même 4 ans, parce qu'après, on est parti pour relier les 5 continents à nage. Mais ça, je vous laisserai le découvrir dans son livre, qui va être normalement intitulé Ma vie pour deux.
Mais ça, c'est un caractère assez partagé par tous les sportifs de haut niveau.
Ouais, il n'y a pas de choix.
Tous les grands aventuriers.
Il n'y a pas de choix, parce que l'objectif est tellement fou. Enfin, moi, quand je voulais traverser la Manche, rouler 5 continents, être pilote sur le Dakar, je dirais que 99% des gens m'ont dit, mais c'est pas possible. Arrête de rêver, tu peux pas faire ça. Mais pour qui tu te prends? Mais t'es dingue, t'as pas de bras, pas de jambes. Tu vas pas traverser la Manche à un âge. Arrête, Philippe. Arrête d'avoir ce rêve de dingue. Et moi, j'ai monté cette équipe-là et on a atteint cet objectif où 99% des gens n'y croyaient pas. Et le 1% qui y croyait, c'était mon équipe et moi, et on a été au bout. Et on a montré aux autres, qui étaient pessimistes, que tout est jouable dans la vie.
Parce que vous n'étiez pas spécialement sportif.
Ah, du tout. J'avais jamais fait sport de ma vie. J'avais 40 ans. Ah non. Jamais.
C'est-à-dire que moi, par exemple, s'il m'arrive une tuile comme ça, je pourrais devenir sportif un jour.
Il n'y a pas de raison.
J'ai jamais été.
Je vous jure, j'ai jamais...
non plus.
J'ai jamais été sportif. J'avais 40 ans. J'étais pendant ce canapé. J'étais un sportif canapé, quoi.
Ouais.
Et j'ai monté l'équipe et je leur ai dit « Transformez-moi, c'est vous les professionnels, transformez-moi, je vais vous écouter. »
C'est-à-dire qu'il y a des gens qui sont des techniciens du physique, qui sont là quand même à vos côtés pour vous dire « C'est là qu'il faut que tu travailles, ce sont ces muscles-là qu'il va falloir privilégier, et surtout pas utiliser ceux-là parce qu'ils vont te faire mal, etc. » C'est pas intuitif.
Non, je monte une équipe, à chaque fois que j'ai un objectif complètement dingue, je monte une équipe de choc. J'essaie de m'entourer des meilleurs, ceux qui ont réussi. Ceux qui ont réussi, les meilleurs dans leur domaine, et je leur propose le deal, je dis voilà mon idée, est-ce que vous êtes d'accord pour venir avec moi? Il y en a qui disent non, mais il y en a qui disent oui. Et ceux qui disent oui,
ils sont bénévoles, ils sont rémunérés, ces gens qui vont vous consacrer
beaucoup
de temps.
Après, c'est divers et varié. Sur la Manche, c'est tout le monde est bénévole. Sur les cinq continents, après, ça commence à devenir un peu plus professionnel. Et après, le Dakar, bien sûr, là, ça devient une usine à gaz. Et là, il faut trouver des gros sponsors et ainsi de suite. C'est compliqué, mais on atteint toujours l'objectif qu'on s'est fixé.
Alors, j'ai posé un sujet de réflexion au tout début du récit. Je ne sais pas si vous avez remarqué, mais je me suis dit en écrivant votre histoire que s'il n'y avait pas eu cet accident, il n'y aurait probablement pas grand-chose à raconter. Qu'est-ce que vous seriez aujourd'hui ? Métallo ?
Certainement ouvrier métallurgiste, ouais.
Dans le Poitou ?
Dans le Poitou, ouais.
Ouais.
Ah ouais, complètement.
Votre vie aurait été moins riche.
On peut pas savoir ce qui serait passé. Peut-être qu'il y aurait eu un coup du destin, d'autres choses. Mais voilà, ma vie, elle a eu ce coup du destin, cet accident, cette reconstruction. Et aujourd'hui, voilà, j'ai envie de montrer que c'est jouable. J'ai juste envie de montrer que c'est jouable.
Ma question, c'est est-ce que cette vie d'aujourd'hui est la plus intéressante ?
Ah ouais, je l'aime. Ah ouais, je l'adore. Ah ouais, c'est sûr. Non, mais c'est sûr. Si on me redonnait mes jambes, je retourne pas à ma vie d'avant, c'est sûr et certain.
Ah bon ?
Ah non, j'en veux pas. J'en veux pas, non. Non, mais c'est sûr, c'est vraiment sérieux. C'est vraiment sérieux. Si vraiment, demain, on me dit, on te redonne tes bras et tes jambes, mais par contre, tout ce que tu as fait jusqu'à aujourd'hui, tu retournes à ta vie d'avant, mais c'est non. Mais non, à 1000%. J'aime ma vie d'aujourd'hui, elle est riche. Ma vie est riche aujourd'hui. J'aime ce que je fais. J'aime aller à la rencontre des gens. J'aime donner des conférences. J'aime écrire des livres. J'aime ce que je fais. Enfin, ça a totalement bouleversé ma vie. C'était dur pendant 10 ans. Mais aujourd'hui, j'aime ce que j'en suis fier. Je l'ai dit tout à l'heure, mais j'en suis vraiment fier. Et fier de tous ceux qui m'ont entouré.
Mais si on veut aller un peu plus loin, ça veut dire que tout ça, c'était en vous. Ça veut dire que dans l'ouvrier métallo qui vivait dans le Poitou, il y avait tout pour faire le Philippe Croizon d'aujourd'hui. Mais que vous auriez pu passer à côté de ça, ça fait très peur. Ça veut dire qu'il y a plein de Philippe Croizon qui s'ignorent.
Mais il y a plein de Philippe Croizon qui s'ignorent, ça j'en suis persuadé. Je pense qu'on a tous cette énergie en nous, mais tant qu'on n'en a pas besoin, on ne l'utilise pas. Elle ronronne dans notre train-train quotidien. On n'en a pas besoin. Et ça, ça remonte à la nuit des temps. Donc on a tous cette énergie, mais elle ronronne, tranquillement.
Est-ce que vous diriez, alors vous le dites pour l'énergie, est-ce que vous iriez jusqu'à dire que vous avez gagné en... Je sais pas, en intelligence, par exemple. Au fond, vous étiez ouvrier métallo, vous aviez une femme que vous connaissiez depuis vos 18 ans, donc il y avait une sorte de routine, probablement. Bon, vous aviez fait un enfant, vous alliez faire le deuxième. Il y avait quelque chose qui était assez banal, finalement. Vous n'aviez pas besoin de faire tourner le cerveau. Si.
Non, pas besoin. Mais j'avais repris mes études pour pouvoir avoir ce diplôme, pour monter dans l'entreprise un petit peu, pour pas rester là métallo toute ma vie à taper sur une culasse avec un marteau. Quoi, je veux dire, c'était, j'imaginais pas ma vie comme ça. Donc j'avais repris les études, mais non, je sais pas. Je pense que tout le monde a une vie. Il y a pas de vie banale. J'en suis persuadé. Il y a pas de vie banale. On a tous un parcours. On a tous envie de construire une famille, d'avoir des enfants, d'avoir sa maison, d'avoir sa voiture et de vivre du fruit de son travail et d'être heureux.
Ouais, enfin, mais c'est ça intéresse personne comme histoire. Ça, je vous le jure. Ouais. Moi, je sais bien, je suis comme vous.
Ouais.
La vie banale, c'est la vie de tout le monde, mais celle-là n'intéresse personne. Et la vôtre, elle passionne les gens. Et moi, je l'ai trouvée passionnante à raconter.
Ben, merci beaucoup. Puis merci de l'avoir partagée avec tous les auditeurs.
Mais moi, ce qui m'intéresse, c'est qu'à 26 ans, on n'a pas fini sa vie.
Ah non. Ah non,
à 26 ans, on peut redémarrer une autre vie. À 26 ans, on peut encore cultiver son cerveau. On peut encore progresser. On peut devenir un type qui est à l'aise sur scène. Un type qui entraîne des gens derrière lui.
On a tous cette énergie-là. Et même si on est en échec scolaire, même s'il nous arrive des grosses tuiles dans la vie, il y a un temps pour tout. Il y a un temps pour tout. Et c'est vrai que j'encourage toujours les gens à dire, OK, t'as le droit de pleurer, t'as le droit de craquer. Même moi, aujourd'hui, j'en ai besoin des fois de pleurer. J'ai besoin, dans tous mes entraînements, j'ai besoin de chialer. Vous l'avez très bien dit tout à l'heure, c'est mon mode de fonctionnement. J'ai besoin de craquer un bon coup, de vider toute cette mauvaise énergie, de pleurer. Même pour vous dire, je mets de la musique, je mets Starmania dans mes oreilles, je m'en vais dans les bois, je chiale un bon coup, quoi. Je mets le monde Stone et ça y est, je vais éclater en sanglots. Et après, je repars à l'entraînement. Mais ça, c'est mon mode de fonctionnement.
Le monde Stone vous fait chialer.
Ah, ben, complètement, ouais. Ça, c'est la chanson qui me fera chialer à chaque fois parce que, je suis un fan inconditionnel de Starmania. Ouais. J'adore cet opéra rock et à chaque fois il y a des chansons qui me font craquer. Ouais. Et vu que j'en ai besoin et des fois j'arrive pas à pleurer tout seul, je mets la musique et c'est parti. On chiale avant coup.
Ben on la met, tiens. On la met et c'est parti. Et puis vous avez qu'à chialer maintenant. Dites-moi juste une chose avant de finir, et qui serait la cerise sur le gâteau. Dites-moi qu'il y a des fois où vous êtes encore au fond du trou.
Ah oui, bien sûr, ça arrive. Bien sûr que ça arrive. Il n'y a pas de super-héros. Franchement, j'ai horreur de ce terme-là du super-héros. Je suis juste un mec qui a bossé. Je suis juste un mec qui a bossé comme un taré pour atteindre son objectif et atteindre son rêve. Vous savez, moi, ce qui m'a fait tenir pendant 2 ans pour traverser la Manche à la nage, c'est ce que je disais à Suzanne à chaque fois. Je disais, si on va au bout, on va changer notre vie.
Et voilà. Merci Philippe Croizon. Merci infiniment. Ce livre est là, disponible pour qui veut le lire et faire le plein d'énergie. Il s'appelle « J'ai décidé de vivre ». Vous le trouverez dans la collection Pocket.
Des centaines d'histoires disponibles sur vos plateformes d'écoute et sur europe1.fr.